André Schlesser et son épouse, Maria Cazares, intègrent Barbara un peu à leur vie. Les bons moments, les restos, les rigolades, un peu la drague, les auditions, tout ça est son quotidien. Elle retrouve à la Boule d'Or les chanteurs rive gauche après les récitals, Francesca, Pia, Christine, Marc et aussi Claude Vinci, qui rapportent cette histoire de Barbara débarquant avec une histoire drôle.
Quelle est la couleur des petits pois ? Non, c'est pas vert, c'est rouge. Parce que les petits pois sont rouges.
Sur son humour, André Gaillard des Frères Ennemis dit ceci. Elle avait un humour renversant qu'elle maniait avec beaucoup d'intelligence et une rapidité affolante. C'était fantastique. Quand elle mettait quelqu'un en boîte, on ne pouvait pas s'accrocher. C'était un mur lisse. Vraiment un sens du comique extraordinaire avec un débit incroyable. Mais je suis sûr aussi que c'était une défense, j'ai pratiqué ça assez longtemps. Vous savez, les humoristes ne sont pas des heureux. Louis Kuttner a dit « L'humour est une façon de se tirer d'embarras sans se tirer d'affaires. » Juliette Gréco se souvient de ses virées avec elle et Françoise Sagan où elle foutait un peu la pagaille dans les restos. Et on dit « Je crois que l'humour de Barbara était une défense, une fenêtre ouverte sur la liberté. » Je crois en fait qu'elle n'a pas cessé de se chercher une apparence, d'installer une image devant son image, parce qu'elle voulait se protéger. Elle avait peur de parler, elle ne pouvait pas. Pierre Yégel, qui l'avait découverte fin 1957, lui a fait enregistrer son premier 45 tours qui sort en avril 1958. Il s'appellera « La chanteuse de minuit » et comportera quatre titres, « L'homme en habit » de Pierre Delanoë et Domenico Modugno, « La Joconde » de Paul Brafort, « J'ai tué l'amour » et « J'ai troqué » de titre signé Barbara.
Montmartre et sa colline ont mis une sourdine, les lumières s'éteignent, la lune enfin peut briller. Quelques rires sonores se font entendre encore, des filles passent, lasses, pressées d'aller se coucher. Le laitier seul au monde a commencé sa ronde, faisant vibrer la nuit du bruit de ses bidons de lait. Et voici l'homme en habit. Cet élégant gentilhomme porte un chapeau de forme, une cape de soie noire, huit canes à pommeau d'ivoire, et sur son gilet tout blanc, un papillon en tissu bleu. De sa démarche élégante, il descend les rues en pente, la mine aristocratique et le geste mécanique d'un homme qui ne sait pas ni d'où il vient, ni d'où il vient, ni où il va. Mais voici la lumière de tristes réverbères que l'aurore dévore comme des lambeaux de nuit. Une fenêtre bâille sur un homme qui bâille. Faut qu'il aille au travail, il a sommeil et ça l'ennuie. L'homme en habit s'avance vers le fleuve en silence et tombe comme une ombre dans l'eau noire qui l'engloutit. Emportant l'homme en habit. Cet élégant gentilhomme portait un chapeau de forme, une cape de soie noire et canne à pomme d'ivoire, et sur son gilet tout blanc, un papillon en tissu bleu. Il n'est plus de notre monde et descend au fil de l'onde comme un poisson fantastique sous les pierres des ponts antiques. Et son âme ne sait pas ni d'où elle vient, ni d'où elle vient, ni où elle va. Adieu, 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 gentilhomme. C'est une charmante idée d'avoir mis pour voyager à travers l'éternité ton costume de mariée. Adieu.
Elle va s'installer dans l'intimité des Yagel, débarquant chez eux n'importe quand et se mettant au piano. Elle a peu, mais elle est déjà généreuse, donnant à la petite Catherine ses bijoux de pacotille au moindre compliment. Celle-ci rapporte « Je me souviens des week-ends à la campagne où elle saucissonnait avec mes parents. Je me souviens d'une femme finalement très solaire, très chaleureuse, qui aimait bien manger et plaisanter. Je me souviens de son rire. Je me souviens d'une femme qui arrivait tout le temps avec un nouvel amant et qui souvent s'engueulait avec. Les engueulades place Gambetta devant chez mes parents, c'était quelque chose. »
C'était 22 heures à peine ce vendredi-là. C'était veille de Noël et pour fête et saint, il s'en allait chez Madeleine près du pont de l'Allemagne. Elle aurait eu tant de peine qu'il ne vienne pas fêter Noël. Fêter Noël en smoking de velours vert, en col roulé blanc, et le cœur en bandoulière, marchant à pas lents, à pied il longe la Seine tout en sifflotant. Puisqu'il allait chez Madeleine, il avait bien le temps. Charmant Noël, charmant Noël. C'était 22 heures à peine ce vendredi-là. C'était veille de Noël et pour fêter ça, elle s'en allait chez Jean-Pierre près du pont de l'Allemagne. Il aurait eu tant de peine qu'elle ne vienne pas fêter Noël, fêter Noël. Bottes noires souveraines et gantées de blanc, elle allait pour dire je t'aime tout en chantonnant. À pied le long de la Seine, marchant d'un pas lent, puisqu'elle allait chez Jean-Pierre, elle avait bien le temps. Charmant Noël. Or voilà que sur le pont ils se rencontrèrent. C'est de là qu'ils s'en venaient d'un chemin contraire. Lorsqu'il la vit si belle des bottes aux gants, il se sentit infidèle jusqu'au bout des dents. Elle aima son smoking vert, son col roulé blanc, et frissonna dans l'hiver en lui souriant. Bonsoir, je vais chez Jean-Pierre près du pont de l'Allemagne. Bonsoir, j'allais chez Madeleine, c'est juste à deux pas. Et ils allèrent chez Eugène pour y fêter ça, sous le sapin de lumière quand il l'embrassa. Heureuse elle se fit légère au creux de son bras. Au petit jour, ils s'aimèrent près d'un feu de bois. Joyeux Noël, joyeux Noël. Mais après une semaine, ce vendredi-là, veille de l'année nouvelle, tout recommença. Il se rendit chez Madeleine, l'air un peu sournois. Elle se rendit chez Jean-Pierre un peu tard, ma foi. Bien sûr, il y eut des scènes près du pont de l'Allemagne. Qu'est-ce que ça pouvait leur faire à ces amants-là, eux qui avaient eu un Noël comme on n'en fait pas. Mais il est bien doux quand même de rentrer chez soi après Noël. Joyeux Noël.
Elle avait une vie amoureuse très dense et très passionnelle. Un ouragan, cette femme. Alors c'est Yagel, des parents de substitution. Gala du monde libertaire, elle y participe avec Ferré et Brassens.
On s'est rencontrés par hasard ici, ailleurs ou autre part, il se peut que tu t'en souviennes.
Sans se connaître, on s'est aimé. Même si ce n'est pas vrai, il faut croire à l'histoire ancienne. Je t'ai donné ce que j'avais, de quoi rêver, de quoi chanter. Tu croyais en ma bohème. Mais si tu pensais à 20 ans qu'on peut vivre de l'air du temps, ton point de vue n'est plus le même. Cette fameuse fin du mois qui, depuis qu'on est toi et moi, nous revient 7 fois par semaine. Et nos soirées sans cinéma et mon succès qui ne vient pas et notre pitance incertaine. Tu vois, je n'ai rien oublié de ce bilan triste à pleurer qui constate notre faillite. Il te reste encore de beaux jours, profites-en mon amour, les belles années passent vite. Et maintenant tu vas partir, tous les deux nous allons vieillir, chacun pour soi comme c'est triste. Tu peux remporter le phono, moi je conserve le piano, je continue ma vie d'artiste. Un jour on ne sait trop pourquoi, un étrange maladroit lisant mon nom sur une affiche te parlera de mes succès, mais un peu triste, toi qui sais, tu lui diras que je m'en fiche.
Barbara, c'est gentil d'être venue nous voir. On ne vous connaît pas encore assez. Vous sortez d'un cabaret qui s'appelle L'Écluse, n'est-ce pas? Et vous allez retourner ce soir?
Oui.
Bon, vous continuez à chanter, vous n'aimez que le cabaret.
Oh non, 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 pas du tout. Mais enfin, pour l'instant, je suis bien à L'Écluse, c'est comme une maison. Enfin, on est très gentil pour moi, comme
vous
j'ai
n'avez
très
pas,
peur.
Vous n'avez pas envie d'en sortir, vous avez très
ah,
peur.
Oui, oui, j'ai envie d'en sortir, bien sûr, bien sûr, parce que j'ai envie de chanter, et pas seulement à L'Écluse. Mais pour l'instant, je suis bien, j'ai très peur, oui, oui, alors, c'est plein de chaleur.
Et si un jour, par exemple, on dit, allez à Bobino, et le succès vous attend, qu'attend que vous?
Ah, mais de toute façon, je dois aller à Bobino cet hiver. J'espère que le succès m'y attend. Mais j'irai, parce que j'ai entré à L'Écluse. Mais, enfin, pour l'instant, je reste là.
Et pour l'instant, d'ailleurs, on vous imagine difficilement ailleurs que dans un cabaret. Sur l'enveloppe de votre disque, vous êtes intitulé La chanteuse de minuit, n'est-ce pas? Vous êtes présence tout à fait nocturne.
Oui.
Et oui, c'est un genre très personnel. Quel genre de chant?
Oh, je ne sais pas, il y a un genre de chansons que je préfère. Enfin, j'aime toutes les chansons que j'ai choisies et que je chante, évidemment, qui sont des chansons d'humour, qui sont des chansons jamais méchantes, mais d'humour noir ou un peu canaille, un peu...
Et vous composez quelquefois?
Non, j'ai fait 2 chansons pour moi. Et non, je ne compose
une
pas.
Une passade, une fantaisie?
Oui, enfin...
Mais cependant, vous avez quand même des études, vous avez fait le conservatoire, j'ai lu ça
oui.
quelque part.
Oui.
Et vous jouez d'un instrument?
Ah, j'ai fait le conservatoire, oui, je m'accompagne au piano, mais j'ai jamais appris le piano.
Ça ne vous gêne pas pour interpréter?
Non, je crois que je suis libérée de mon piano, enfin, je joue très mal.
Novembre 1958, un deuxième 45 tours chez Pathé Marconi avec Pierre Yégel. Ce sera Veuve de guerre de Marcel Cuvelier et de Cuvelier Bischoff pour la musique, Maîtresse d'acteur de Xandrov, Les amis de Monsieur de Fraxon et Dès la lui de Barbara.
Mon mari est mort à la guerre, je venais d'avoir 18 ans, je fus à lui seul tout entière de son vivant. Mais le jour de la fête, on me compte à fleurette. Peut-être qu'on n'aurait pas pu si je n'avais pas tant bu. Comme j'étais couchée sur le ciment, on a pu facilement devenir mon amant. Si ça devait arriver, c'est que ça devait arriver. Tout dans la vie arrive à son heure. Il faut bien qu'on vive, il faut bien qu'on boive, il faut bien qu'on aime, il faut bien qu'on meure. Mon amant est mort à la guerre, je venais d'avoir 19 ans. Je fus à lui seul tout entière de son vivant. Mais quand j'ai appris ça, je ne sais ce qui se passa. Je ne sais quelle folie, je ne sais quelle furie. En un jour, je pris 3 amants et puis encore autant dans le même laps de temps. Si ça devait arriver, c'est que ça devait arriver. Tout dans la vie arrive à son heure. Il faut bien qu'on vive, il faut bien qu'on boive, il faut bien qu'on aime, il faut bien qu'on meure. Tous les 6 sont morts à la guerre. À la guerre que font mes amants. Bientôt chez nous, il n'y aura plus guerre d'hommes vivants. Mais quand un seul restera, j'épouserai celui-là. On sera enfin tranquille jusqu'au jour où nos filles en seront aussi au moment de prendre des amants comme leur pauvre maman.
Si ça doit arriver, c'est que ça doit arriver. Tout dans la vie arrive à son heure. Il faut bien qu'on vive, il faut bien qu'on boive, il faut bien qu'on aime, il faut bien qu'on meure. Il faut bien qu'on vive, il faut bien qu'on boive, il faut bien qu'on aime, il faut bien qu'on meure. Faut que je t'oublie, parce que dans quelques jours tu vas te marier. Ce que tu me demandes là, mais c'est de la folie, car il y a des amours qu'on ne peut oublier. Je te l'ai toujours dit, tu fus le premier homme qui m'échasse tes pures tenues dans ses bras. Oui, ça te fait sourire, ben souris mon bonhomme. Mais ça c'est une chose qu'une femme n'oublie pas. Ah oui, j'étais pure, c'était ridicule. Des choses de la vie, je savais rien de rien. À ce point que toi pourtant, que pas un Hercule, hein. Parce que tu me faisais, je trouvais ça très bien. Ah, t'aurais tout de même pas fait comme ce colosse, des choses épatantes entre les deux repas. Mais non, mon ami, non, je ne suis pas rosse. Et tout de même des choses qu'une femme n'oublie pas. En ce temps-là, t'étais pas vêtu comme un prince, tu gagnais quelque chose comme 100 francs par mois. Quand on a le ventre creux, on a la taille mince. J'aime pas les gros hommes, ben t'étais de mon choix. Je menais une vie sobre tout autant que rangée. Ah, tu te souviens pas de ça maintenant que t'es grasse, que j'en ai bouffé de la vache enragée. Et ça, c'est une chose qu'une femme n'oublie pas. Ce qui ne t'empêchait pas de faire des petites bonbons, mais de chercher ailleurs un autre bien que le tien. Ah, tu m'en as fait voir et de toutes les nuances, tu prétendais même que le jaune m'allait bien. Et quand je pense que moi, j'étais fidèle, dans la vie d'une femme ça compte. En tout cas, le cas est assez rare pour que je me le rappelle, et ça c'est une chose que je n'oublierai pas. Et le jour où je t'appris que j'allais être mère, un enfant à nous, c'était fabuleux, tiens. Je l'ai là ta voix dans le creux de mon oreille. Ah non, pas d'enfant, on est assez de deux. Ah, tu te fichais bien de ma vie, de ma souffrance. Ce qui prouve, mon ami, que si t'es mufle au fond, ben c'est pour d'aujourd'hui que j'en fais l'expérience. Car il y a des choses qu'une femme n'oublie pas. Oh puis tiens, tu me rendrais méchante si je remue tout ça, c'est que j'ai tant de peine. Je croyais qu'on vivrait toujours tous les deux. Mais non, j'irai pas chez toi faire des scènes. Tu veux t'en aller, va-t'en. Sois heureux. Mais t'oublier, non. Je t'avoue ma faiblesse, songeant au passé, je pleurerai parfois, car sans la voiture, ben c'est toute ma jeunesse. Et ça, c'est une chose qu'une femme n'oublie pas.
Janvier 1959, son premier passage à la télévision dans l'émission « Au cabaret ce soir » de Micheline Sandrel et Colette Mars. Elle enregistre « J'ai troqué ».
J'ai troqué mes chaussettes blanches contre des bas noirs et mon sarrau du dimanche contre de la moire. Mon doux regard d'infante et mes allures guindées pour des regards d'amante, pour des airs encanaillés. Les matinées enfantines où l'on bousculait Chopin, les réunions de cousines autour d'un fuseau de lin, les petites bonnes à tout faire que mon père affectionnait, tiens, et les amants de ma mère qui s'installaient pour l'année 20. J'en ai eu assez, j'ai troqué mes chaussettes blanches contre des bas noirs et mon sarrau du dimanche contre de la moire. Et ce besoin de tendresse que je trimballais, l'ai changé pour des caresses, l'ai changé pour des baisers. J'ai quitté le vieux domaine où mes rêves agonisaient, mon titre de châtelaine, sans soupir et sans regret. La rue, qui est une grande famille, n'a pas hésité. Elle a fait de moi sa fille, elle m'a adoptée. Elle a transformé en rire mes heures tristes d'autrefois. Elle m'a changé, on peut le dire, me voilà fille de joie. J'ai troqué mes chaussettes blanches contre des bas noirs et mon sarrau du dimanche l'ombre de la voix.
Fin avril 1959, télévision avec Denise Lazer pour réaliser avec elle son premier discorama. Il y en aura d'autres.
Vous avez dit je me sens mieux dans ma peau depuis que j'ai accepté mon physique.
Oui.
Je crois.
Bon, je crois que bon, ça m'ennuie de parler de moi, mais puisque vous m'en parlez, je sais même que je vous réponde. Quant à mon physique, je pense que effectivement c'est un physique qui est étranger à beaucoup de gens. C'est-à-dire c'est un physique qui a dérangé beaucoup de gens, qui de ce fait m'a dérangé beaucoup aussi. Et une fois que ce physique a été accepté, moi je me suis sentie mieux dans ma peau.
J'aime beaucoup que vous ne soyez pas passée par les chirurgiens.
Mais, ah oui. Oh, non, je n'ai pas envie. Enfin, peut-être ce serait mieux, mais moi, je n'ai pas envie parce que je crois que je serais différente. C'est pas que je m'aime comme je suis, mais je crois que c'est comme ça. Et voilà, je ne sais pas comment je s'en ferais. Je ne sais pas ce qu'il arriverait si tout à coup, on a peur de toucher. C'est comme ça, c'est comme ça. Je crois que, enfin, en tout cas, pour moi, je ne veux pas toucher. Bon. Et maintenant, ce qui m'a aidé à accepter ce physique-là, c'est en fait le bonheur, si vous voulez, la joie qui m'a été donnée, bon, par cet horrible mot, par le succès.
Le métier, c'est vous. Le métier, c'est aussi les autres.
Oui.
Est-ce que vous suivez un peu...
Les autres, moi, oui.
Oui. Est-ce que vous suivez un peu ce qui se passe dans le monde?
Je suis parfaitement ce qui se passe dans le monde, oui. Parfaitement, mais ce n'est pas... en fonction. En aucun cas, je ne pourrais me servir d'un événement, d'une tragédie, je veux dire, qui ne soit pas la mienne, pour faire une chanson. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui.
Parce que je ne saurais pas que les choses sont si fragiles et que quand on voit les choses, je ne peux pas me servir des morts si ce ne sont pas les miens pour faire une chanson, vous comprenez.
Fin 1959, elle rentre habiter à la maison, rue Vitruve, avec sa mère et son frère Claude qui a 17 ans, qu'elle apprécie beaucoup, se sentant très proche de lui. Une période où elle se sent bien, son travail à l'Écluse, ça marche. Et du côté famille, elle se sent proche de sa mère qu'elle retrouve, prenant un peu la direction de la famille. Elle prend en location-vente un piano, qui donc deviendra sien et qu'elle gardera jusqu'à Précis.
J'ai l'air comme ça, d'une moins que rien, qu'a pris la vie du bon côté. D'une fille perdue qui va son chemin sans trop chercher à s'y retrouver. Quand un garçon me fait la cour, ça me fait plus rien, j'ai l'habitude. Ça m'amuse deux ou trois jours, puis je retourne à ma solitude. J'ai tué l'amour parce que j'avais peur, peur que lui ne me tue à grand coup de bonheur. J'ai tué l'amour, j'ai tué mes rêves, tant pis si j'en crève. Je fais pas l'amour pour de l'argent, mais il me reste plus beaucoup de vertu. C'est presque aussi décourageant que de faire les 100 pas dans la rue. Maintenant mon cœur est ensablé, il a cessé de fonctionner. Le jour même où je l'ai quitté, sans trop savoir où ça me mènerait, j'ai tué l'amour parce que j'avais peur, faire qu'elle lui ne me tue à grand coup de bonheur. J'ai tué l'amour, j'ai tué mes rêves, tant pis si j'en crève. Quand je pense que pour ma liberté j'ai brisé, cassé notre chaîne, quand je pense qu'il y avait qu'à s'aimer, à mettre ma main dans la sienne. Maintenant je l'ai ma liberté comme un fardeau sur mes épaules. Elle me sert tout juste à regretter d'avoir joué le mauvais rôle. Bon,
tard, est-ce que j'avais peur? Peur que lui ne me tue. Un grand coup de bonheur, j'ai tué l'amour, j'ai tué mes rêves. Aujourd'hui, j'en crève.
21 décembre 1959. Un coup de téléphone. Votre père, il a eu un accident. Il se trouve à l'hôpital Saint-Jacques, à Nantes, et vous réclame. Barbara raccroche, rappelle, puis finalement elle entend « Je vous passe la morgue. Vous êtes sa fille ? Nous avons recherché la famille, sans résultat. Votre père est mort il y a 48 heures. » Elle prend le train pour Nantes, seule.
Mon plus grand désespoir sera de n'avoir pu dire à ce père que j'ai tant détesté « Je te pardonne, tu peux dormir tranquille, je m'en suis sortie puisque je chante. »
Au même moment, la pianiste de l'Écluse, Yvonne Schmitt, vient de toucher sa nouvelle voiture depuis quelques jours, acquise après de longues économies, et voilà Barbara qui débarque et lui dit « Mon père vient de mourir à Nantes, je dois y aller, tu me prêtes ta voiture ?» Bien embêtée, je fais confiance à Jean Poissonnier et je lui laisse les clés. Elle y ira donc avec son petit frère aussi pour enterrer le père. Bizarrement, dans ses mémoires, comme vous allez l'entendre, elle ne parle pas de la voiture empruntée et de Jean Poissonnier.
Nantes, il pleut. Un taxi me conduit à l'hôpital. Devant ses portes, la même douleur me cloue sur place. Je reste longtemps appuyée là, avant qu'on ne me demande si j'ai besoin de quelque chose. À la réception, j'entends ma propre voix, grise et coupante comme un fil d'acier. La réponse est douce, presque suave. On va vous conduire, chambre C. Une musique dont la mélodie ne me reviendra en mémoire que beaucoup plus tard m'accompagne. Une petite musique triste, jusqu'à la porte C. La porte C grandit, se déforme, le C danse, se balance, gigantesque. Je frappe. C'est une religieuse qui m'ouvre. Vous venez bien tard. Je ne savais pas. Jusqu'à la dernière minute, il est resté lucide. Il a voulu qu'on ne prévienne personne. Nous n'avons rien pu lui faire dire. Voyez sœur Jeanne, c'est elle qui l'a assistée dans ses derniers moments. C'est ici. La porte s'ouvre sur une pièce minuscule. Il est allongé sur le lit, le visage découvert, comme s'il dormait. Je regarde mon père que je n'ai pas revu depuis 10 ans. Son visage est amaigri, vieilli, son teint cireux. Je me tourne vers la sœur qui hoche la tête. Je m'avance et pose la main sur cette peau sans vie. Je prononce des mots hachés sans suite. Je sens qu'on me tire, qu'on m'arrache, qu'on me parle, je me retrouve assise. Je tiens une tasse brûlante, je bois. « Ça va mieux ?» s'enquiert la sœur. « Ce qu'il y a de plus dur, c'est la séparation. »« Personne ne venait le voir ?»« Si, sœur Jeanne vous dira. » Sœur Jeanne ne dit rien. Elle a promis de garder le secret de cet homme dont elle parle avec respect. Je me souviens brusquement que mon père aimait beaucoup les petites sœurs des pauvres et qu'il se montrait jadis très généreux envers elles. Je souris à sœur Jeanne. « Je comprends, ma sœur. Je vous remercie. Je vais vous donner l'adresse de M. Paul, qui était son ami et qui fut présent jusqu'à la fin. Avant, je voudrais savoir pour l'enterrement. » À nouveau le couloir, l'escalier, un petit bureau, une vieille dame à lunettes. Je me nomme. La vieille dame à lunettes me sort un catalogue rempli de cercueils joliment présentés. Un pointillé conduit au prix. « Vous avez choisi ?» demande la vieille dame à lunettes. « Le moins cher. Mais le bois n'est pas très bon. À la moindre occasion, il prendra l'eau. Je ne dispose que d'une somme très modique, dis-je d'un ton sec. » La vieille dame à lunettes quitte son air de vieille dame complaisante et devient une espèce de représentante en cercueil. Elle bonimente sur la qualité, la solidité, les intempéries, etc. Je me tais, le visage dur, fermé. La vieille dame lorgne mon sac, mes mains, le bracelet d'argent qui enchaîne mon poignet. Elle soupire, réprobatrice, parle un peu de Dieu, puis se fait une raison. L'enterrement est prévu pour le lendemain 8 heures. Le convoi partira de la morgue pour se diriger vers la chapelle. Vers la chapelle. Mais mon père... Bien, je serai là. Je n'ai pas sur moi l'argent nécessaire. La vieille dame me fait crédit jusqu'au lendemain. À la réception, on refuse de me rendre le seul objet déposé par mon père. Une grosse montre que je ne connais pas. Il faut un certificat d'hérédité. Bien, dis-je. La montre y est peut-être encore. Un taxi me conduit à l'adresse donnée par Sœur Jeanne. C'est un café au coin d'une rue. J'entre. 4 hommes jouent aux cartes. L'un d'eux s'avance vers moi, me prend doucement la main. « Vous êtes la fille de Monseigneur ?»« Nous aimions beaucoup votre père. » Un homme à lunettes, Monsieur Paul, s'approche à son tour, un peu agressif. Longtemps, il me parle d'un homme extraordinaire dont ils ne savent rien. Sinon, qu'il avait été rejeté par sa famille, qu'il avait eu 4 enfants qu'il aimait, une fille surtout, qui chantait. De quoi vivait-il? Où habitait-il? Parfois, il dormait dehors, mais il réapparaissait au matin, impeccable, pour entamer d'interminables parties de poker. Gai, généreux, gueulard, il ne croyait en rien, n'espérait plus rien. Jamais une plainte, confirme Monsieur Paul. Pourtant, une fois qu'il avait un peu trop bu, je suis allé trop loin, c'est fini pour moi, aurait-il dit à Monsieur Paul, qui proposait de l'aider. Monsieur Paul raconte, j'écoute, bouleversé, la vie de cet homme que je n'ai pas connu, et dont je retrouve pourtant les traits de caractère. Je m'en veux d'être arrivé trop tard. J'oublie tout le mal qu'il m'a fait. Et mon plus grand désespoir sera de ne pas avoir pu dire à ce père que j'ai tant détesté « Je te pardonne, tu peux dormir tranquille. Je m'en suis sorti puisque je chante. » Peut-être a-t-il longtemps et partout traîné le souvenir et le remords de son crime ? J'apprends que les appels mystérieux reçus à la maison, quand on raccrochait chaque fois sans rien dire, c'était lui. La musique revient dans ma tête. Monsieur Paul dépose devant moi un vieux portefeuille, une paire de lunettes dont les verres sont rayés. « Si j'avais su, dit-il, oui, si j'avais su que vous étiez comme ça, je vous aurais quand même appelé, mon petit. » Je l'insulte, lui crie que c'est nous qui avons été abandonnés, que ma mère a vécu un calvaire, que moi-même... Je comprends, dit Monsieur Paul, qui ne peut pas comprendre, mais qui a été si formidable. Pardonnez-moi, vous avez bien fait de respecter ses volontés. Je vous remercie. De quoi est-il mort? Un soir que la partie s'était prolongée tard, il a été pris au moment de partir d'une très violente douleur dans les reins. J'apprends que, ne sachant pas où il allait dormir, il coucha ce soir-là chez Monsieur Paul. Au matin, il refusa de voir un médecin, mais la douleur persistant, il finit par accepter d'être transporté à l'hôpital. Comme on lui demandait où il fallait quérir ses affaires, il répondit en rigolant qu'il ne possédait que ce qu'il avait sur lui. Il mourut 3 semaines plus tard d'une tumeur cérébrospinale, refusant la morphine qui aurait adouci sa faim. Merci, Monsieur Paul. Retour à Paris pour trouver l'argent nécessaire à l'enterrement. C'est Pablo, directeur du cabaret L'Amiral, que je connais pourtant assez mal, qui accepte de me le prêter. Merci, Pablo. Je file à Vitruve et croise Claude, qui a appris la mort de son père et veut venir avec moi à Nantes. J'hésite, il insiste, nous repartons ensemble. À Nantes, il pleut tout le ciel. Dans le cimetière, nous marchons tous deux, épaule contre épaule. Une femme sanglote, elle me parle en s'accrochant à mon bras. Qui sont ces quelques hommes étranges? Des joueurs de poker? Dans la boue du cimetière, je perds mes souliers, je ne sais pas trop comment. On enterre mon père dans la fosse commune. Il n'y a pas de fleurs. Nous rentrons à Paris, mon frère et moi. Tout au long du retour, je palpe au fond de ma poche les lunettes d'écaille. Pauvre héritage auquel je m'accroche comme à la chaleur d'une main.
Il pleut sur Nantes. Donne-moi la main. Le ciel de Nantes rend mon cœur chagrin. Un matin comme celui-là, il y a juste un an déjà, la ville avait ce teint blafard lorsque je sortis de la gare. Nantes m'était alors inconnue, je n'y étais jamais venue. Il avait fallu ce message pour que je fasse le voyage. Madame, soyez au rendez-vous.
Gare Montparnasse, mon petit frère Claude, bouleversé, refuse de rentrer à Vitruve. Je m'y rends lentement, seul et perdu. Je vais me retrouver devant ma mère. Je voudrais l'épargner, dire les choses le plus doucement possible. J'entre, ma mère est allongée sur le petit divan, les traits tirés, inquiète. L'enterrement, c'était l'enterrement. Je tombe. Je raconte sans tout dire, sachant que l'apparente indifférence de ma mère masque un vrai chagrin. Mais je ne peux réprimer par moments mon agressivité, malheureuse de ne pas être aidée, comprise. Et tout à coup, je vous vois ma mère, je lui parle comme à une étrangère, peut-être pour pouvoir raconter avec plus de distance. Elle ne comprend pas très bien ce qui se passe. Aucune d'entre nous deux ne relèvera ce tournant, mais nos rapports seront à jamais changés, sans que je puisse préciser clairement ces modifications. Je deviendrai sévère à l'égard de ma mère, que j'ai toujours adorée. Même si j'ai eu tant de mal à l'aimer, de son côté, elle manifestera envers moi, qu'elle dit indomptable, les premiers et timides élans d'une maman qui vient de découvrir son enfant. Elle deviendra elle-même mon enfant chéri, que j'assumerai, protégerai toujours et du mieux que je pourrai.
Barbara savait-elle que son père vivait à Nantes? Elle dit que non. Mais il y a ce témoignage d'un représentant de Parte Marconi qui se trouve un jour dans un bistrot avec télévision à Nantes. Barbara passe à la télévision. L'homme dit « C'est ma fille ». Le représentant engage la conversation. À son retour, il raconte tout ça à Barbara et de ce jour, elle ne lui a plus jamais parlé. On a bien le sentiment d'une formidable ambiguïté, bien normale. Une peur panique de se trouver en face de lui vivant. Elle dit qu'elle ne le revit jamais, mais il y a cet épisode de 1955 raconté précédemment avec Jacques Vinquier où elle le croise sur le boulmiche et se cache. Et puis il y a Hubert Bellet qui rapportera « À la fin des années 50, elle me parlait tout le temps de son père. Elle disait par exemple qu'après son départ du domicile conjugal, elle l'avait aperçu plusieurs fois, au bas de leur appartement. » Assis sur un banc, et que de toute la famille, elle était la seule à l'avoir reconnue. Quand il sera mort, tout sera plus facile, jusqu'à la chanson, et elle écrira dans ses mémoires.
Je garderai longtemps le souvenir du mélange de fascination, de peur, de mépris, de haine, et d'immense désespoir que je ressentirai lorsque je le retrouverai mort, à Nantes, 20 ans plus tard.
Je crois qu'elle aurait pu ajouter et de soulagement.
Dès le lendemain de l'enterrement, je reprends mon tour de chant à l'écluse où je somnambulise durant un certain temps. Nous sommes le 28 décembre 1959. De la chanson Nantes, je n'ai encore écrit et composé la mélodie que des 4 premières phrases. Il s'écoulera plusieurs années avant que je ne retouche et reprenne cette chanson en 1963. La veille de mon passage au mardi de la chanson, au théâtre des Capucines.
Peu de temps après le voyage à Nantes, rupture brutale avec Jean Poissonnier. Fini, adieu, plié, un de plus et c'est pas fini.
« Si elle m'oublie, comme on oublie dans un taxi, ou sur la banquette d'un bistrot, un magazine. Si elle m'oublie, je me dirai que c'est bien dommage. Oui, mais voilà, c'est ainsi qu'elle tourne la page.
Jean Poissonnier a beaucoup de mal à vivre cette rupture. Il se fait débarbariser par des amis qui l'hébergent. Inconsolable, il finit quand même par s'en remettre et épousa une autre femme. Il invite Barbara à son mariage et la mère de Jean Poissonnier raconte « Elle est arrivée avec son amie du moment et un gros cadeau pour nous. Mais avant la fin de la journée, elle s'est fâchée avec son amie qui est repartie en voiture avec notre cadeau. » Jean Poissonnier mourut 10 ans plus tard, sans aucun rapport, évidemment. Février 1960, elle est pressentie pour jouer dans une pseudo-comédie musicale « Le jeu de dames » de Van Paris, Manoir et Wilmette. C'est compatible avec son passage à l'Écluse à minuit, elle accepte donc. La première a lieu le 25 novembre 60 au Théâtre Moderne. Ce n'est pas un souvenir inoubliable. Par ailleurs, elle reçoit à ce moment-là le prix de l'Académie Charles Gros pour son 25 cm, Barbara chante Brassens.
Mariage d'amour, mariage d'argent, j'ai vu se marier toutes sortes de gens, des gens de basse source et des grands de la terre, des prétendus coiffeurs, des soi-disant notaires. Quand même je vivrai jusqu'à la fin des temps, je garderai toujours le souvenir content du jour de pauvres noces où mon père et ma mère s'allèrent marier devant monsieur le maire. C'est dans un charabeu, s'il faut parler bien franc, poussé par les amis, tiré par les parents, que les vieux amoureux furent leurs épousailles après longtemps d'amour, longtemps de fiançailles. Cortège nuptial hors de l'ordre courant, la foule nous couvait d'un œil protubérant. Nous étions contemplés par le monde futile qui n'avait jamais vu de noces de ce style. Voici le vent qui souffle emportant crève-cœur, le chapeau de mon père et des enfants de cœur. Voici la pluie qui tombe en pesant bien ses gouttes comme pour empêcher la noce coûte que coûte. Je n'oublierai jamais la mariée en pleurs, berçant comme une poupée son gros bouquet de fleurs. Moi pour la consoler, moi de toute ma morgue sur mon harmonica, jouant les grandes orgues. Tous les garçons d'honneur montrant le poing au nu, criaient par Jupiter la
la noce continue, par les hommes décriés, par les dieux contrariés, la noce continue, et vive la mariée, vive la mariée, vive la mariée. Quand même je vivrai jusqu'à la fin des temps, je garderai toujours le souvenir content des jours de pauvres noces où mon père et ma mère s'allèrent mariés devant monsieur le maire.
Contente, sa famille aussi, elle écluse encore plus. À ce moment-là, elle rencontre Jacques Higelin, aristocratiquement beau.
Et puis un soir, je tombe amoureuse, folle, éperdue, complètement décagnassée, le cœur et la tête à l'envers, amoureuse, enfin.
De son côté, lui, qui était venu à l'écluse 2 ans plus tôt, le voilà tombé amoureux fou, et c'est réciproque. Et qui est-il, cet Hubert Ballet ? Diplomate français en Afrique, à Abidjan, il fait l'aller-retour permanent entre la France et l'Afrique. Alors, elle fait un premier voyage pour aller chanter à Abidjan et revient à Paris. Il doit venir la rejoindre, mais ça tarde. Elle enregistre les chansons de Jacques Brel, le 25 cm.
Derrière la saleté, s'étalant devant nous, derrière les yeux plissés, les visages mous, au-delà de ces mains ouvertes ou fermées qui se tendent en vain ou qui sont point levées, plus loin que les frontières qui sont de barbelés, plus loin que la misère, il nous faut regarder. Il nous faut regarder ce qu'il y a de beau, le ciel gris ou bleuté, les filles au bord de l'eau, l'ami qu'on sait fidèle, le soleil de demain, le vol d'une hirondelle, le bateau qui revient. L'ami qu'on sait fidèle, le soleil de demain, le vol d'une hirondelle, le bateau qui revient. Par-delà le concert des sanglots et des pleurs et des cris de colère des hommes qui ont peur. Par-delà le vacarme des rues et des chantiers, des sirènes d'alarme, des jurons de charretiers. Plus fort que les enfants qui racontent les guerres et plus fort que les grands qui nous les ont fait faire. Il nous faut écouter l'oiseau au fond des bois, le murmure de l'été, le sang qui monte en soi, la berceuse des mères, la prière des enfants, et le bruit de la terre qui s'endort doucement. La berceuse des mères, la prière des enfants, et le bruit de la terre qui s'endort doucement. Il nous faut écouter. Il nous faut regarder.
Le 9 février 1962, à l'invitation de Félix Martin, elle passe en vedette anglaise à Bobino. Pas de souvenir de ce spectacle, sauf que déjà, elle s'acharnait à régler son tabouret de piano à 61 cm. Le soir de la dernière, Robert Valentino, le pianiste de Félix Martin, un peu fat, écrase le tabouret de Barbara. Quelqu'un lui offre un tabouret de dentiste qu'elle fera repeindre en noir et couvrir de velours noir et qui ne la quittera jamais plus.
Je suis pas sûre, faut que je voie ça. Enfin, alors il y a eu 3 pianos et il y a eu aussi l'histoire du tabouret. Vous savez que je m'accompagne au piano et que donc je m'assois sur un tabouret, ce qui me paraît assez normal. Enfin. Et alors quand j'arrive, mais n'importe où, je veux dire, en France par exemple, en tournée, j'arrive et il m'est arrivé les premières années. Je disais, mais alors il n'y a pas de tabouret. Ah ben, c'est pas sur le contrat. Je dis, mais oui, mais enfin, s'il y a un piano, il faut que je m'assoie sur quelque chose. Ah ben, nous n'avons pas de tabouret. Ah bon. Alors une fois, j'ai joué avec une chaise et des bottins. La stupéfaction du public. Qui j'ai dit que j'allais pas les lire, c'est pour m'asseoir. Et puis après, j'ai fait vraiment. Alors j'ai expliqué au public que j'avais pas. Alors petit à petit, je suis arrivée, il y avait des tabourets un peu partout. Mais alors, ils ne se tournaient pas. Vous savez que comme je suis en scène, de profil, à cause de mon admirable physique, je suis obligée de faire comme ça. Mais si on me donne un tabouret qui ne bouge pas, je ne peux pas me tourner. Alors il a fallu que j'explique tout ça. Alors je disais aux messieurs directeurs, je leur dis, mais enfin, vous quand vous faites vos comptes, vous avez un stylo avec de l'encre. Ah oui madame, ben, moi quand il me faut un piano qui marche. Alors si vous en parlez, ah oui c'est vrai, ah, c'est vrai. Alors finalement, j'ai commencé à avoir des tabourets, mais qui n'étaient pas... Bon, alors j'ai emmené un tabouret à moi, qui est tout à fait banal d'ailleurs. Banal.
Vous, vraiment, vous je promenez avec votre tabouret?
Je me promène depuis 15 ans avec mon tabouret, sauf à Montréal. Et c'est vrai ce que je vous dis là. Parce que évidemment, j'étais vue, je crois, la première fois sur mon tabouret, quelque chose comme ça. Alors je dis, il me faut un tabouret, et je vais vous faire rire, mais je vous dis que ce tabouret fait 61 cm de haut, et pas plus, c'est comme ça, il fait 61 cm.
C'est vrai,
alors on n'a pas de tabouret, mais on dit, Percival, il veut l'être. Bon, alors on a commencé à chercher partout, alors il y avait des tabourets de bar, mais effectivement c'était trop haut. C'était trop haut par rapport au clavier, parce que les pianos n'ont jamais la même hauteur en plus.
On peut placer les bottins sous le piano à ce moment-là.
Non, pas du tout. Alors je dis, il est trop haut, il faut le couper. Alors on m'a dit, ah bon, c'était juste avant que je rentre en scène en plus, je sais pas ce qu'il y avait. Comme ça. Alors j'étais là dans ma grande robe noire, c'est pas. Et alors il y avait des gens qui étaient sous le piano, très gentils, très gentils, qui étaient sous le piano, à essayer de scier les pieds du tabouret. Alors moi j'étais, parce que là je vous le raconte en rien, mais enfin j'étais furieux, parce que c'était invraisemblable et tout ça, enfin je ruminais tout ça dans un coin. Et tout le monde était affolé parce que je sais pas pourquoi, mais je fais très peur dans ces cas-là. Ah bon, qu'est-ce qu'elle a et tout, qu'est-ce qu'elle va faire? Je reprends l'avion, parce que je reprends l'avion à 10h30 en bleu. Il n'y a pas d'avion d'abord. De toute façon, il n'y a pas eu d'exemple que je ne rentre en scène. Et comme tout le monde le sait, tous les directeurs se disent, qu'elle aura fini, elle rentrera quand même. Parce qu'à partir du moment où le public est là, moi je rentre. Bon, c'est parce que je ne sais pas pourquoi, mais je rentre, je fais quelque chose. Alors bon, alors finalement, j'ai vu arriver une scie. Un monsieur qui avait une scie dans le main, je ne sais plus lequel, je ne sais pas si c'est... Il a scié les pieds. Alors j'ai dit, ah, ben, c'est parfait, je me suis assise, il avait scié trop. Le tabouret était ouvert. Alors je dis, vous faites exprès, c'est pas possible, c'est le numéro de Grog. Vous savez qu'il y avait... Alors, on a recollé, vous n'allez pas me croire, mais on a recollé des petits bouts, autant j'en ai souvenir, des petits bouts de bois, oui, sous les pieds du tabouret. On a remis des petites choses comme ça, tout ça.
Chez Blais tout le temps, ça?
Oui, tout ça. Ah oui, tout ça chez lui, oui. Et finalement, le tabouret était trop haut, parce qu'on avait remis les trucs trop bas. Enfin, ça a duré comme ça, le public a ignoré cette chose-là. Peut-être que je lui ai raconté la dernière fois, je crois. En fait, c'était fantastique. D'ailleurs, c'est pour ça que je reviens, parce que c'est fantastique, chez lui.
Au programme de ce passage à Bobineau le 9 février 1962, la marche nuptiale de Brassens, les Flamandes de Brel, Veuve de guerre de Cuvelier, Chapeau bas de Barbara elle-même, Liberté de Charles Aznavour et De Shanghai à Bangkok de Georges Moustaki.
Shanghai, mardi 15h30. Shanghai. De Shanghai à Bangkok sur une coque de noix. Sydney à Caracas, les jours qui passent sans toi, traînant de port en port, à bord l'ennui, le bourdon. Je repense au retour dans 4 jours, c'est long. C'est pour toi, ma jolie, que je suis sortie vainqueur de ces îles perdues où l'on tue et où l'on meurt. J'ai jeté par-dessus bord tous mes remords, ma conscience, pour sortir victorieux du cap de désespérance. Je t'avais promis en te quittant d'aller conquérir un continent, de payer pour toi la fortune de la terre. Et il y en aurait tant eu qu'on aurait su que faire. Je t'avais promis en te quittant des pièces d'or pour ton bracelet. Je crois que c'est raté, ah bon? De Shanghai à Bangkok, sur tous les docks, j'ai flâné. Les filles de couleur m'offraient leur cœur à aimer. Quand j'avais trop le bourdon, j'allais les voir et pourtant, c'est toi qui as mon cœur, jolie fleur que j'aime tant. En croyant m'enrichir, j'ai vu périr mes dollars. Au dé ou au poker, jeu de l'enfer et du hasard. Quand le piano à bretelles jouait le fameux air que t'aimais, je ne suis pas mélomane, mais le vague à l'âme me prenait. Il m'avait promis en me quittant d'aller conquérir un continent, de payer pour moi la fortune tout entière. Il y en aurait tant eu que je n'aurais pas su que faire. Il m'avait promis en me quittant des pièces d'or pour mon bracelet. Ben c'est raté. Adieu Shanghai, Bangkok et sa défroque de marin. Car sa dernière escale, c'est le canal Saint-Martin. Il n'aura pour merveille qu'un peu de soleil dans ses mains. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Il est sur le chemin qui le ramène enfin. Et de Shanghai à Paris, de Shanghai à Paris, de Shanghai à Paris. Là.
Barbara poursuit ses récitals à l'écluse. De plus en plus, elle place ses propres chansons, mais sans jamais dire qu'elle les a composées. Une grande pudeur l'en empêche.
Lettre de Hubert Ballet qui revient à Paris pour peu de temps. Des étreintes, des tangos, des orages, amour tumultueuse. Hubert repart en me demandant de venir vivre quelque temps avec lui à Abidjan. Après avoir difficilement négocié avec l'écluse, je pars le rejoindre. J'ai mis une ultime condition à ce voyage, ne pas dépendre, travailler. Il refuse, puis finit par céder. Le hasard fait que Joatia, venue m'entendre à l'écluse, m'engage en juillet 61 dans le cabaret qu'il a ouvert à Abidjan, dans le quartier de Trècheville. Abidjan. Me voici installée dans la villa résidentielle de Hubert. Je chante au refuge, qui porte bien son nom, et où je verrai transiter des gangsters de tout calibre, des voyous sympas, petits délinquants ou grands truands. Joatia, le roi des non-lieux, c'était le genre Monsieur Victor. Mais sans la route du Nord, au refuge, il y a parfois des coups de grisou et des coups de gueule. Mon tour de chant s'intercale entre Faïza et sa danse berbère et Minouchette, la stripteaseuse. Jo me présentait ainsi. Il mettait son flingue sur ses genoux et disait au public « Barbara est une superstar, alors je vous préviens, le premier qui ouvre sa gueule pendant qu'elle chante, je le tue. » Je m'entends très bien avec toutes ces belles jeunes femmes dont je prends la défense les soirs d'orage. La nuit, Hubert attend mon retour, montre en main. Sa jalousie est maladive. Quand le même taxi me ramène chaque nuit à la villa, je fais exprès de demander à Eman, le chauffeur, de ralentir. Mais le maître sera fâché. « Ralentis, Eman, ralentis !» Je respire l'odeur lourde de la lagune. Il y a des soirées insupportables. Des aristocrates à la gomme en robe Dior. Les femmes sont folles de Hubert et toutes sont jolies. Je n'apparais que très peu à ces soirées données en mon honneur. Vous nous chanterez bien quelque chose ? Non, rien. Comme c'est dommage. Vraiment dommage. Elle supplie Hubert d'intervenir. Derrière mes lunettes, mes yeux se plantent violemment dans ceux d'Hubert, qui perd un instant de son assurance devant les belles diorisées. Mépris pour ce monde poli, mais pas joli joli. Je m'éclipse et disparais dans les cuisines. Avec les deux boys de Hubert, je me sens bien. Ils sont dignes, font semblant de ne s'apercevoir de rien. Ils m'ont appris certains de leurs secrets. Hormis les moments où je me trouve seule avec Hubert, je ne me sens jamais à l'aise dans mon propre espace. Je suis comme égarée. L'amour-passion de lui m'a mis la tête et le cœur à l'envers.
À peine la nuit va s'achever, que déjà ta main s'est glissée légère, légère. À peine sortie du sommeil, à peine tu t'éveilles, que déjà tu cherches ma main, que déjà tu frôles mes reins. L'aube blafarde par la fenêtre. L'aube blafarde va disparaître. C'est beau, regarde par la fenêtre. C'est beau, regarde le jour paraître. À chaque jour recommencer, à se vouloir, à se gagner, à se perdre, à se déchirer, à se battre, à se crucifier. Passe les vents et les marées, mille fois perdu déchirer, mille fois perdu retrouver. Restons là émerveillés. Ton indocile, ta difficile. Et puis docile, ta si fragile. Je suis la vague où tu te noies. Et je m'enroule au creux de toi. À peine le temps s'est posé, Printemps, hiver, automne, été. Tu t'en souviens, c'était hier. Printemps, automne, été, hiver. À peine tu m'avais entrevue, et déjà tu m'avais reconnue. À peine tu m'avais souri, que déjà je t'avais choisi. Mon indocile, mon difficile, et puis docile, mon si fragile. Tu es la vague où je me noie, tu es ma force, tu es ma loi. Dans la chambre s'éclisse l'ombre, je t'aperçois dans la pénombre. Tu me regardes, tu me guettes, tu n'écoutais pas, je m'arrête. Au loin, une porte qui claque, il pleut, j'aime le bruit des flaques. Ailleurs, le monde vit, ailleurs, mais nous nous vivons là, mon cœur. Et je m'enroule au creux de toi. Et tu t'enroules au creux de moi. Le temps passe vite à s'aimer. À peine l'avons-nous vu passer, que déjà la nuit s'est glissée légère, légère. Ta bouche à mon cou, tu me mords. Il fait nuit noire au dehors. Ta bouche à mon cou, je m'endors. Dans le sommeil, je t'aime encore. À peine je suis endormie, que déjà tu t'endors aussi. Ton corps à mon corps s'est fait lourd. Bonsoir, bonne nuit, mon amour.
L'écluse télégraphie, il faut que je rentre. Déchiré, je nous sépare encore une fois. Dans l'avion, une petite musique et quatre phrases. Je commence, dis, quand reviendras-tu ?
Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulerons dans les rues de Paris. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà, craque les feuilles mortes, brûle les feux de bois. Avoir Paris si beau dans cette fin d'automne, soudain je m'alanguis, je rêve, je frissonne, je tangue, je chavire comme la rengaine. Je vais, je viens, je vire, je tourne, je me traîne. Ton image me hante, je te parle tout bas, et j'ai le mal d'amour, et j'ai le mal de toi. Reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. J'ai beau t'aimer encore, j'ai beau t'aimer toujours, j'ai beau n'aimer que toi, j'ai beau t'aimer d'amour. Si tu ne comprends pas qu'il te faut revenir, je ferai de nous deux mes plus beaux souvenirs. Je reprendrai la route, le monde et mes merveilles, j'irai me réchauffer un autre soleil. Je ne suis pas de celles qui meurent de chagrin, je n'ai pas la vertu des femmes de marin. Dis, mais quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne s'en rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus.
Arrivé à Vitruve, j'écris puis déchire et jette les pages de mon cahier d'écolière. Comme chaque fois que je compose une chanson sur mon vieux magnétophone, dis quand reviendras-tu, prend forme, puis se finalise. Je reprends mon tour de chant à l'écluse et chante dis quand reviendras-tu pendant un an sans oser dire que j'en suis l'auteur. Je n'avais jusqu'à ce jour interprété que des chansons d'amour composées par des hommes. Je peux enfin chanter l'amour comme une femme. Si elles disent la même chose, les chansons d'amour écrites par des hommes ou par des femmes le disent de manière bien différente. Par téléphone, je fais entendre à Hubert cette chanson écrite pour lui. Il revient. Quelque temps plus tard, nous partons ensemble pour la Suisse et l'Italie. Stresa. C'est beau le lac de Côme.
Viens voir l'Italie comme dans les chansons. Viens voir les fontaines, viens voir les pigeons.
Hubert est différent, vulnérable, il doute. Loin de son décor et de ses figures en falbalesques, il me rend très heureuse, mais veut que je lui prouve mon amour, en lui faisant la promesse de ne plus jamais toucher un piano de tout notre voyage. Je promets. Nous rentrons à Paris. Il veut me trouver un appartement avant de repartir pour Abidjan. En transit pour quelques jours dans un hôtel de la rue Jacob, je remarque en arrivant un piano droit, en bas, dans le salon. Le lendemain matin, alors que Hubert se trouve encore dans notre chambre, je descends, j'ouvre le piano qui sent la colle et les vieux marteaux de feutre. Hubert survient. À cet instant, je le perds, il me perd. Journée infernale. Le lendemain, tout en soleil à nouveau, mais fragile, si fragile. Hubert trouve un appartement à proximité du pont Mirabeau, rue de Rémusat. Nous visitons, oui, oui, il m'installe à Rémusat, comme une danseuse. Je quitte Vitruve en douceur, avec mon piano, mon magnéto et l'unique valise avec laquelle j'ai vécu jusqu'ici, et que je n'aurai plus désormais à refaire sans cesse. J'ai un appartement. Je cliquette mon trousseau de clés. Hubert repart et me laisse décider de l'installation pour laquelle je suis aidée par mon ami Michel Souillac, antiquaire et chineur de génie. C'est lui qui me fait découvrir la salle des ventes de Drouot. C'est là que je croise un matin cette femme bouleversante pour laquelle j'écrirai la chanson « Drouot ».
Dans les paniers d'osier de la salle des ventes, une gloire déchue des folles années 30 avait mis aux enchères parmi quelques brocantes un vieux bijou donné par quel amour d'antan. Elle était la figée superbe et déchirante, les mains qui se nouaient se dénouaient tremblantes, des mains belles encore déformées, les doigts nus comme son nu parfois. Les arbres en novembre, comme chaque matin dans la salle des ventes, pour donner une foule fiévreuse et impatiente, ce qui pour quelques sous rachète pour les vendre les trésors fabuleux d'un passé qui n'est plus. Dans ce vieux lit cassé en bois de palissandre, que d'ombres enlacées ont rêvé à s'attendre, les choses ont leurs secrets, les choses ont leurs légendes. Mais les choses murmurent si nous savons entendre. Le marteau se leva dans la salle des ventes, une fois puis deux fois, alors dans le silence, elle cria, je prends, je rachète tous. Ce que vous vendez là, c'est mon passé à moi. C'était trop tard déjà dans la salle des ventes. Le marteau retomba sur sa voix suppliante. Tout se passe si vite à la salle des ventes. Tout se passa si vite qu'on ne l'entendit pas. Près des paniers d'osier dans la salle des ventes, une femme pleurait ses folles années 30. Et revoyait soudain défiler son passé, défiler son passé, défiler son passé. Car venait de surgir du fond de sa mémoire, du fond de sa mémoire, un visage oublié, une image chérie du fond de sa mémoire, son seul amour de femme, son seul amour de femme. À quart, elle sortit de la salle des ventes, froissant quelques billets dedans ses mains tremblantes, froissant quelques billets du bout de ses doigts nus, quelques billets froissés pour un passé perdu. À garde, elle sortit de la salle des ventes, je la vis s'éloigner, courbée et déchirante. De son amour d'antan, rien ne lui restait plus. Pas même ce souvenir, aujourd'hui disparu.